attaquer nouveaux territoires, donc les pays émergents, on parle Chine, Inde et même Brésil, parce que le Brésil, c'est le territoire qu'on n'a pas. Donc ça, c'est un des axes d'opportunité pour nous là, de développer sur des nouveaux territoires avec la thématique qu'on a aujourd'hui.
Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 138e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis matin. Également, j'en profite aujourd'hui pour vous parler du nouveau podcast qu'on a sorti dernièrement. Le 3 mai dernier, on a officiellement lancé notre troisième balado hebdomadaire intitulé « Commerce Élite ». Après Hypercroissance et Social Selling, on a décidé de lancer un nouveau podcast qui sortira à chaque mardi, parlant des tendances à suivre dans le commerce électronique. Les entretiens tactiques seront également au rendez-vous. Donc, si vous possédez un commerce en ligne, que vous désirez le transformer en commerce élite, allez jeter un coup d'œil à notre tout nouveau balado ou encore transférez le podcast à votre chef du département marketing. Avec le beau temps qui surgit au Québec, je me suis dit que c'était le moment parfait pour parler de Noël sur le podcast. Plus sérieusement, au-delà de Noël, on va parler de croissance aujourd'hui et surtout de croissance internationale. Alexandre Bérard, président et fondateur de l'application Mon Père Noël Portable, est avec nous aujourd'hui pour nous expliquer comment son entreprise a été capable de générer plus de 15 millions de téléchargements de son application et de créer plus de 150 millions de vidéos personnalisées depuis son lancement. L'entreprise qui a fait le tour des médias internationaux à travers les années au vu de sa croissance phénoménale est maintenant accessible dans plusieurs pays dans le monde et dans plusieurs langues également. Pendant l'entretien d'une quarantaine de minutes, Alexandre nous dévoile les stratégies que lui et ses collègues ont mis en place à travers les années afin de devenir les leaders dans leur catégorie. Sans plus attendre, ma discussion avec Alexandre Bérard. Alexandre Bérard, vous êtes le fondateur de l'entreprise Ugroup Media, le groupe qui est derrière la création de Mon Père Noël Portable, une application mobile lancée en 2008. L'application qui est parue dans les médias de renom comme BBC, USA Network ou encore Fox News a été téléchargée plus de 15 millions de fois depuis son lancement et a du même coup généré plus de 150 millions de vidéos personnalisées pour Noël. Alexandre Bérard, au nom de toute l'équipe de Hypercroissance, merci beaucoup d'être sur le podcast aujourd'hui.
Ben, merci de l'invitation, Antoine, super apprécié.
Et Alexandre, vos chiffres sont impressionnants, voire ahurissants. Mais avant d'en parler ensemble aujourd'hui, peux-tu nous expliquer précisément ce qu'est Mon Père Noël Portable?
Donc, Père Noël Portable, c'est une application que maintenant le Père Noël a accès depuis déjà, comme tu disais si bien tantôt, depuis 2008, qui lui permet de rentrer en communication avec tous les enfants du monde, les petits et les grands aussi. Si on y va de manière plus concrète, donc c'est un site web, pèrenoëlportable.com ou une application mobile sur iOS, Google Play, maintenant Amazon Store aussi et aussi HMS pour nos clients plus étrangers qui vous permettent dans le fond à partir de là de compléter un formulaire, donc quel est le nom de votre enfant, il habite à quel endroit, il y a des frères, il y a des sœurs, qu'est-ce qu'il souhaite comme cadeau, est-ce qu'il a été sage, téléverser plusieurs photos de lui pendant les vacances ou ainsi de suite. Et on reprend toute cette information-là. Ça nous permet de créer une vidéo complètement personnalisée. Donc, dans le fond, qui crée la communication entre le Père Noël et l'enfant de manière tout à fait personnalisée. Donc, le Père Noël va dire « Bonjour Antoine, je vois que tu travailles pour Hypercroissance, tu habites Montréal et ainsi de suite. » Donc, toutes les informations vont être intégrées. C'est ce qu'on appelle du live action. Donc, c'est pas de l'animé. Donc, c'est vraiment fait directement au village du Pôle Nord, comme on dit.
Puis, Alexandre, on peut voir que rapidement, l'application a une réponse immédiate des gens qui l'ont téléchargé. Je lisais que seulement quelques semaines après son lancement en 2008, vous comptiez déjà près de 2 millions de vidéos téléchargées. Si on se ramène à 2008, les médias sociaux n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. On était littéralement à leur tout début. Comment t'expliques une viralité aussi forte avec des outils qui sont totalement différents de ce qu'on a accès aujourd'hui?
C'est une bonne question parce qu'en plus, j'ai l'impression qu'on est dans complètement une autre époque. En 2008, là, mon
c'est
Dieu,
fou, hein?
Facebook était à peine sorti. Le iPhone venait de sortir en 2007, si je me souviens bien, le premier iPhone. Fait qu'écoute, assez simple. Ben un des éléments qu'il faut pas oublier, c'est le bon vieux courriel. Donc le bon vieux courriel était quand même déjà là et donc les gens appréciaient le produit et se le partageaient par courriel énormément. Donc à partir de là, ça a créé beaucoup de viralité à simplement à travers le courriel. Puis le bon vieux bouche à oreille. Le bouche à oreille, c'est encore quelque chose aujourd'hui. Nous, on mesure dans nos sondages annuels encore aujourd'hui. Puis habituellement, le bouche à oreille, là, il se situe quelque part dans le top 4 de la manière que les gens le partagent. Donc, il y a encore beaucoup de bouche à oreille qui se fait, mais malgré tout, donc à l'époque, j'imagine que c'était aussi la même chose, qu'on ne le mesurait pas de manière aussi précise qu'on le mesure maintenant. Et le fait aussi que c'était un produit qui était unique, nouveau, donc on a vraiment créé cette catégorie-là, ça n'existait pas. Et le fait d'avoir cette simulation de communication-là complètement personnalisée en direct, ça interpelle les gens, petits et grands aussi, avoir une vidéo qui te regarde dans les yeux puis qui t'appelle par ton nom puis qui nomme des choses, c'est toujours l'effet est toujours intéressant.
Puis est-ce que des stratégies marketing spécifiques que vous avez peut-être mis de l'avant que tu pourrais partager avec l'audience aujourd'hui? Parce que, bon, le produit est intéressant, le produit est partagé, mais tout de même, là, c'est des chiffres dans les millions que vous avez été capable de faire, et ça, très rapidement. J'imagine qu'il y a dû y avoir certaines campagnes qui vous ont aidé, là.
Exact. Ben, écoute, au début, comme tu dis, là, la viralité, encore aujourd'hui, la viralité, c'est notre élément numéro un. Et le fait qu'on ait un modèle, on a toujours un peu gardé cette approche-là. Dans l'industrie, on dit un freemium, là, donc on a un produit gratuit. Et notre produit gratuit a quand même été, il est quand même toujours très intéressant. Puis ça, c'est toujours une espèce d'équilibre, hein, qui est très, très fin entre la qualité du produit que tu offres gratuitement versus tes produits qui sont payants. Je pense qu'on a toujours poussé un petit peu plus au niveau de la qualité et d'en donner beaucoup pour des usagers. Ça nous nuit peut-être un peu au niveau de la conversion, mais vu qu'on travaille à long terme avec ce produit-là et cette marque-là, ben on se dit que bon, si c'est pas cette saison, ça sera la saison plus tard, et ainsi de suite, qu'un client va convertir. Donc, l'aspect de la qualité du produit à offrir au niveau gratuit continue à encore aujourd'hui créer une viralité très, très forte. Après ça, c'est certain que on était appuyé beaucoup sur ça dans nos premières années, ou à peu près uniquement sur ça. En même temps aussi, faut le dire, on était sur des modèles qu'on appelle à l'époque B2B. Donc, c'était des licences qui étaient vendues à des portails. Donc, je pense que c'est un terme d'une autre époque aussi. On vendait ça à des portails reconnus au Canada. On a fait des ententes aussi en France, en Suisse. Donc, on avait un peu commencé à géolocaliser tout ça. Donc, on vendait des licences par pays. Donc, c'est portail-là avait quand même aussi une portée de clientèle assez élevée. Donc, eux-mêmes s'occupaient de faire le marketing et de faire connaître le produit. Et nous, ça a toujours été sous le nom Père Noël Portable, Portable North Pole en anglais et dans toutes les autres langues aussi. On a gardé la marque sur le produit. Donc, ce qui fait qu'on a construit aussi notre clientèle à travers ces portails-là, qui étaient un peu la référence, parce qu'on est avant Facebook. Là, maintenant, on s'entend que c'est plus le cas du tout. Donc, ça nous a aussi beaucoup aidé à démarrer le produit sans avoir d'investissement massif à faire au niveau du marketing, parce que le modèle était B2B. Là, bien entendu, on a migré sur du B2C par la suite, là.
Puis bon, des chiffres qui sont impressionnants, on le dit plus tôt, la viralité avec votre produit, mais tout de même, je pense que vous avez pris votre temps pour trouver le bon modèle d'affaires. Je lisais un article que vous aviez dans lequel vous aviez été interviewé en 2009 qui disait que ça lui prend un certain temps avant de trouver le bon modèle pour la monétisation derrière avec l'application. Es-tu capable de partager avec notre audience aujourd'hui combien de temps que ça vous a pris afin de transformer une application qui était devenue virale en une organisation ayant un modèle d'affaires bien établi?
C'est aussi une bonne question. Un élément, par contre, que je souhaite peut-être à souligner là, par rapport au fort trafic qu'on avait connu, surtout dans les premières années. Il faut imaginer là, qu'à l'époque, quand on pense avoir 10 000 users dans à peu près 8 semaines, on faisait ça sur des bons vieux serveurs, puis on n'avait pas trop pris non plus le serveur trop performant, on ne voulait pas trop dépenser, donc on avait fait ça assez simple. Ça n'a pas été long, là, que le il y avait même pas de cluster monté à l'époque, comme on dit, sur des serveurs, donc c'était assez basic, fait que le système, il y avait de la misère à livrer, ce qu'il y avait à livrer, ça a crashé plusieurs fois, et ça, on est venu peine de misère à finir notre saison, malgré tout réussir à travers d'avoir X nombre de millions d'usagers. Donc, j'imagine avec une solution plus robuste, on aurait pu en faire beaucoup plus. On était revenu en 2009 avec une solution où on dit, bon, là, c'est bon, on va avoir un cluster avec un système beaucoup plus performant. Puis ça a été la même situation qui nous est arrivée à cette époque-là. Donc, on se retrouve là, quand même dans les débuts, fin des années, c'est ça, 2008-2009. Et déjà, nous, en 2010, on a migré, nous, sur Amazon AWS sur la solution. Donc, il y a peu de monde quand même qui était sur Amazon. On avait entendu parler. Je pense que ça fait partie un peu des réflexes d'innovation qu'on a toujours gardés dans l'entreprise, donc d'aller vers des nouvelles plateformes, des trucs qui étaient performants. Ça correspondait extrêmement à nos besoins, du fait, entre autres, qu'Amazon, ben, ils ont développé ça, on le sait l'histoire, là, du fait qu'il y avait des spikes de trafic à Noël. Ben, nous, on était un produit de Noël, donc c'est certain qu'on avait besoin de soudainement beaucoup de trafic. Alors, c'était une solution qui est encore aujourd'hui la solution qui est robuste pour nous, qui fait le travail. Donc ça, je pense que ça mérite de le mentionner dans la stratégie et qui nous a permis de développer après ça la suite des choses pour être capable de supporter du trafic. Parce que quand tu es sur une entreprise en B2C, où là, tu as besoin de rentrer énormément d'usagers dans un modèle freemium. Donc, on s'entend que là, tu rentres, grande majorité de tes usagers sont gratuits. Tu as un plus petit pourcentage qui convertit. Donc, ce sont eux qui réussissent à payer les factures, comme on dit. Fait que tu as besoin de rentrer énormément d'usagers dans un court laps de temps. Donc, ça te prend une plateforme robuste. Fait qu'on n'a jamais pu, on n'aurait pas pu faire ça si ça n'avait pas été avec Amazon au niveau du modèle, pour revenir à ta question au niveau du modèle financier. Fait qu'au tout début, ce qu'on se rendait compte, c'est que on l'offrait en licence, comme je t'expliquais un peu plus tôt, en B2B auprès des grands portails. Et tranquillement, mais pour les pays où on n'avait pas de licence, vu que c'était géolocalisé, ben on l'offrait un peu comme ça, gratuitement. Donc, entre autres, au tout début, même aux États-Unis, on n'avait aucun partenaire. Donc, on faisait du trafic. Et là, les gens nous écrivaient après la saison puis disaient, je veux absolument garder mon vidéo. Je veux le montrer à mon enfant comme un souvenir. Puis, sur le coin de la table, là, mon développeur de l'époque, là, il avait dit, ben, on va leur offrir de le télécharger, puis on a codé un truc là pour être capable de monétiser sur PayPal à l'époque là, puis d'avoir un frais, puis on vendait les vidéos après la saison. Donc quand ils avaient fini de la regarder en ligne, parce qu'ils streamaient la vidéo et la regardaient, on l'offrait en téléchargement, puis c'est vraiment les usagers qui nous l'ont demandé. Fait que ça a commencé un petit peu à nous aiguiller sur du modèle de B2C avec de vendre du contenu numérisé. Donc c'est aussi assez rare quand même dans ces, encore aujourd'hui, c'est pas évident de monétiser des contenus numériques. Là, tu dois être toi-même conscient de ça aussi. C'est loin d'être évident. Dans un modèle financier, on parle de transactionnel et non avec le revenu publicitaire. Parce que nous, on n'a à peu près jamais mis de publicité dans nos produits. Donc, les produits gratuits sont vraiment offerts gratuitement, donc ils sont des coûts pour nous. Alors, ça prend vraiment de la conversion au niveau de nos usagers premium. Fait que ça a commencé comme ça, à savoir que les gens voulaient conserver leurs vidéos. On a vu l'attachement en développant cette petit outil-là, PayPal, un peu bancal, là, qui fonctionnait moyennement à l'époque, mais qui a réussi à nous faire tester, dans le fond, ce marché-là. Puis, on est assez vite embarqué dans les applications mobiles, là, si je me trompe pas, je pense que c'est 2011, si ma mémoire est bonne. Donc, les applications mobiles nous permettaient, dans le fond, on avait vu qu'on pouvait monétiser, donc avec le App Store, avec le Google Play. Donc, on a commencé aussi assez rapidement avec des applications mobiles pour réussir à monétiser plus facilement nos contenus. Et on a réduit, dans le fond, notre travail sur les approches B2B, puis on a commencé un peu à laisser tomber nos licences, puis à se focaliser uniquement. Fait qu'au début, ça a été une balance entre on gardait certains territoires où on avait encore des licences, où on avait un revenu plutôt fixe avec notre partenaire, et sur des territoires où on n'avait pas de licence, ben là, on monétisait plus, on testait notre modèle B2C, comme je te mentionnais plus tôt.
Puis finalement, je veux dire, ça fait plusieurs années maintenant que c'est lancé. Est-ce que vous avez été capable de trouver la bonne formule pour rendre une application qui, de base, on peut la considérer peut-être qu'on va, en tant qu'usager, la prendre simplement gratuitement, à un produit qui, rapidement, facilement, vous êtes capable de faire de la conversion? Est-ce que c'est devenu une entreprise qui, par elle-même, a été capable de prendre cette croissance financière-là?
Exact. Puis un des éléments récents, là, l'évolution de tout ça, bon, ça d'avoir des produits numériques, bon, des produits d'appel là, ou des vidéos où on peut télécharger autour de 5$, puis après ça avec des packages autour de 10, puis autour de 15$. Et là, ce qui nous permet aujourd'hui et qui marche bien pour nous, c'est le modèle d'abonnement. Donc, le modèle d'abonnement qui est en vogue. On a beaucoup hésité, même chose. Au tout début, on n'était pas très friands. On disait, bon, on a un produit quand même assez saisonnier. Donc, comment les gens vont vouloir embarquer dans un modèle d'abonnement? Ça sera peut-être un peu un frein à la transaction. Ben, puis finalement, c'est un abonnement annuel. Donc, c'est pas un abonnement mensuel. Il y a beaucoup de produits qui font des abonnements mensuels. Dans notre cas, nous, c'est annuel. Et ça vient quand même beaucoup aider au niveau du modèle, parce qu'on peut imaginer, c'est que nous, on fait de la transaction, on a des usagers qui se passent pendant une période très courte et très, très dynamique. Mais après Noël, on réduit beaucoup notre trafic. Et les gens, il faut, comme dans le fond, on peut dire, réacquérir nos clients. Donc, il faut comme réacquérir nos clients l'année suivante. Donc, le modèle d'abonnement nous permet de s'éviter ça pour une portion de la clientèle qui vont sur de l'abonnement parce que, dans le fond, ils sont refacturés. Puis, on a beaucoup de clients qui étaient aussi contents de ça parce qu'à chaque année, on a des usagers qui nous disent, nous, on fait ça avec nos enfants depuis 2010, depuis 2012, depuis des années. Donc, on peut imaginer là, une jeune famille qui a commencé avec leur premier enfant au tout début, qui sont rendus à 3-4 enfants. Ben, entre les années, le temps que les suivants arrivent, ben, ils passent ça d'un à l'autre. Donc, c'est vraiment devenu une tradition familiale dans beaucoup de familles qui font à chaque année leurs vidéos. Et qui ça fait partie de la magie de Noël pour eux et c'est important. Puis ça, je pense, on est assez privilégié d'avoir cette relation-là avec les usagers.
Fascinant.
À tous les auditeurs du podcast Hypercroissance, je vous pose une question. Êtes-vous à la recherche des dernières tendances pour votre commerce en ligne? Êtes-vous à la recherche des ressources pour votre chef du département marketing afin de l'aider dans son travail? Si c'est le cas, sachez qu'on croit avoir la bonne réponse pour vous. On a la fierté aujourd'hui de vous présenter notre tout nouveau balado intitulé « Commerce Élite », un podcast qui, à chaque mardi, va présenter des entretiens marketing tactiques avec des acteurs influents du commerce électronique. Dans ces épisodes, on s'assure également de vous mettre à jour sur les nouveautés qui ont impacté l'industrie dans les dernières semaines. Donc après hypercroissance pour les entrepreneurs et social selling pour les acheteurs médias, nous voilà maintenant avec Commerce Élite, un podcast 100% orienté pour les équipes marketing des entreprises qui vendent en ligne. Allez jeter un petit coup d'œil et n'hésitez pas à transférer le podcast à votre équipe interne. De retour à l'épisode en cours.
Un autre point qui est très fascinant même, c'est votre longévité. On l'a dit un petit peu plus tôt, vous avez lancé l'entreprise en 2008. On enregistre le podcast maintenant, 2 février 2022. Donc, ça fait 14 ans maintenant que l'application est lancée. Vous continuez à avoir des téléchargements année après année. Comment expliquer le fait que autant d'années plus tard, vous continuez à générer de la croissance, à générer de l'engouement avec votre clientèle? Qu'est-ce que vous avez fait de spécifique pour garder les gens actifs?
En plus, on aurait fait ce podcast-là en 2008, j'aurais encore des cheveux. Donc, pour vous dire, ça fait un bout de ça, mais bon, c'est pas tout le monde qui vont le voir, bien entendu. Mais oui, ça fait un bon moment. Je suis moi-même surpris de dire, mon Dieu, dans le numérique, dans le B2C, de générer d'être là encore longtemps, ben c'est sûr qu'il y a un terme en anglais, je vais me dire à peut-être le traduire en français, là, mais on appelle ça des entreprises, des thématiques, on va appeler ça du evergreen. Donc on pense qu'on est sur un thème evergreen, puis ça correspond bien à nos couleurs, à nos codes de couleurs aussi du vert, on en a beaucoup. Donc je pense qu'on est sur une thématique evergreen. Je pense que ça va nous survivre à nous cette tradition de Noël là. La tradition de Noël aussi la religion est moins forte à travers ça. Je pense que c'est des valeurs qui sont intéressantes pour bien des gens qui sont pas nécessairement de religion associée à Noël. Donc, c'est une grande fête que les gens aiment célébrer. Il y a des belles valeurs derrière ça. Il y a des cadeaux, tout ça. Donc, c'est everything is good en arrière de Noël. Donc, ça je pense que c'est un des éléments du fait que cette fête-là existe depuis longtemps. Et je pense qu'aussi une des choses aussi qui fait qu'on a du succès pour nous d'être là année après année, c'est que on revient avec du nouveau contenu. Donc le contenu à chaque année, et ça fait partie de la découverte. Donc les gens, ils reviennent nous voir la saison suivante, ils l'ont fait l'année d'avant, puis ils veulent découvrir le film ou le mini-film de cette année, ça va être quoi la thématique. Donc on est généreux sur la quantité de nouveaux contenus. Il y a un coût pour ça aussi à chaque année, pour tourner tous ces nouveaux contenus-là et de pas arriver avec le même contenu saison après saison. Ce qui fait que les gens découvrent des éléments du village qu'ils n'avaient pas vus, des personnages qu'ils n'avaient pas vus, des petites actions qui se passent différemment. Et tout ça entremêlé aussi avec beaucoup plus avec de l'innovation. Donc, ça a l'air de rien, mais avec les années, on a beaucoup développé toutes sortes d'éléments innovants. Oui, à la base, effectivement, c'est encore une vidéo personnalisé, on pourrait dire ça, mais maintenant une vidéo personnalisée ou dans laquelle on peut zoomer parce qu'on a l'API de Google Maps intégré dans la vidéo, donc on peut aller voir jusque chez vous. Je peux vous générer un appel complètement synchronisé pendant la vidéo, donc le personnel va décrocher son téléphone, il vous appelle, votre téléphone sonne à côté de vous, vous décrochez, vous le regardez, il est en train de vous parler, c'est complètement synchronisé. Ça, c'est connecté avec l'API de Twilio, on peut faire au-dessus de 180 pays avec ça. On a ajouté de l'interactivité. Donc, pendant que la vidéo joue, le Père Noël va demander « Veux-tu que j'aille à droite ou on va à gauche? » Clique dans l'écran. Donc, les gens ils cliquent pour aller voir une partie de l'action, de qu'est-ce qui va se passer. On a aussi ce qu'on appelle le capture de réaction, donc le reaction recorder. Donc, pendant que l'enfant regarde sa vidéo, surtout la première fois, énormément d'émotions, énormément de réactions dans le visage des enfants qui sont uniques, qui sont des moments, des lifetime moments. Et la caméra sur le téléphone ou sur votre laptop aussi, on enregistre aussi cette réaction-là. Et après coup, on crée une vidéo, ce qu'on appelle un picture-in-picture. Donc, on voit la vidéo et on voit la réaction de l'enfant. Donc, les parents adorent ça parce qu'ils peuvent le garder en souvenir de voir comment l'enfant a réagi à sa communication avec le Père Noël. Donc, tout ça, c'est tous des éléments quand même très innovants qui demandent certaines pirouettes technologiques pour y arriver, tout en supportant le trafic qu'on a.
Puis on a parlé d'ajouts que vous avez faits et je pense qu'à un certain point, à un moment donné, vous avez également fait un ajout au niveau des langues. Et vous disiez également dans un article que quand vous avez amené l'espagnol, l'italien, ultimement, ça devenait un petit peu trop de boulot pour ce que vous étiez capable de faire à l'époque. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que vous êtes encore sur les mêmes langues qu'au début? Est-ce que vous avez évolué un petit peu à ce niveau-là?
Effectivement, je pense qu'on était, j'étais pris d'enthousiasme dans le début de tes affaires et j'avais lancé, on avait ajouté à l'anglais au français, on avait ajouté de l'espagnol, de l'italien, de l'allemand et on a ajouté aussi du japonais. Donc on a même aussi testé le marché japonais pour vous dire. Et on a lancé ça du mieux qu'on a pu pour ajouter ces territoires-là. Mais de toutes ces nouvelles langues-là qu'on a lancées, on a quand même retenu l'espagnol et l'italien. Donc encore aujourd'hui, depuis 2015, on roule anglais, français, espagnol et italien. Donc, les seuls qu'on n'a pas retenus, c'est l'allemand et le japonais qui, eux, on a fait une saison. On s'est rendu compte que là, effectivement, ça faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Puis, c'est pas nécessairement des marchés qui réagissaient aussi bien qu'on avait pu imaginer que nos études de marché nous avaient donné. Tandis que marché latino, entre autres, là, surtout pour la saison 2021, un contingent là, hyper dynamique, qui adore les fêtes de Noël, qui sont très familiales, donc qui partagent énormément l'application, qui font énormément de commentaires aussi dans l'application. Donc ça aussi, on a énorme fanbase à travers toute l'Amérique latine. Là, c'est énorme, ce marché qui est en croissance pour nous dans les dernières années et plus récemment depuis 2020, là, qui ont pris une autre étape. Même chose pour nos Italiens aussi.
Wow! Combien vous êtes dans l'équipe pour gérer la... Parce que c'est ça que j'essaye de visualiser un petit peu. Combien de personnes qu'on a besoin pour opérer cette entreprise-là? Parce que là, c'est devenu une grosse entreprise. Il y a des millions de personnes qui utilisent votre application. À quoi ressemble un petit peu la taille de votre équipe?
Bien, c'est sûr qu'on a une taille d'équipe qui fluctue beaucoup pendant la saison. Donc, on a un noyau dur là, qu'on pourrait dire d'à peu près... entre 20 et 25 personnes, qui est un mix d'employés à temps plein et de consultants. On a des consultants qui sont à l'année avec nous à temps complet, mais qui sont consultants, ça sont à l'étranger. On a des consultants qui vont peut-être faire des mandats de 3 mois, 6 mois selon la période de l'année. Parce que par exemple, quand on roule pendant la saison, ça nous prend un service clientèle qui est capable de répondre en 4 langues sur à peu près tous les fuseaux horaires, sur 7 jours sur 7. Donc là, faut monter une équipe. Donc là, on le fait avec des embauches de consultants ou des firmes tiers qui viennent nous supporter pour ça. Après ça, quand on tombe dans cette période-ci de l'année, on a moins de besoin de service à clientèle, donc les équipes sont réduites. Mais on a notre personne en interne qui est en charge de service à clientèle fait partie, bien entendu, des gens du noyau dur. Fait qu'on a ces espèces d'équipes-là qui sont capables d'être en croissance, puis d'avoir du support quand on en a besoin, puis d'avoir une certaine décroissance. Mais cela dit, me fait souvent dire la blague, là, ben, le reste de l'année, t'es en vacances, là, mais bon, non, c'est pas nécessairement le cas. La semaine prochaine, on est en tournage là, pour 2022, fait qu'on est vraiment déjà scénarisation, tout ça, c'est fait durant l'été passé, pré-production à l'automne, et là, on rentre en tournage là, dans les prochains jours. Fait que c'est vraiment un cycle continu pour être prêt et d'être prêt à prendre la vague de trafic qui arrive la saison suivante, là.
Puis, bon, on le dit un petit peu plus tôt, toi présentement, t'es président de YouGroup Media. Est-ce que c'est la seule application? Ben la seule, dans le sens, c'est un gros travail à gérer, là. Loin de moi l'idée de vouloir sous-estimer l'ampleur du travail. Mais est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont intégrés un petit peu à votre firme ou présentement, c'est le seul projet dans lequel que vous mettez tout votre temps?
C'est vraiment dans le projet dans lequel on met tout notre temps. Donc, on s'est fait proposer toutes sortes de d'autres projets ou par des marques, là, des grandes marques qui nous ont contactés. On s'est contacté à chaque année pour faire à peu près ce qu'on fait, mais pour d'autres produits ou ainsi de suite. Donc, on a toujours résisté un peu à ça, à l'effet de rester très focus sur notre niche, sur notre produit. Je pense que ça fait partie de nos éléments de succès qu'on a aujourd'hui. Cela dit, on reste quand même ouvert à des opportunités qu'on peut avoir ou quand on regarde des opportunités, quand ils nous paraissent vraiment porteuses. On a des projets qui se sont rendus même très, très loin au niveau de voir si on allait les lancer ou pas, mais on les choisit pour on veut prendre le bon projet pour le faire. Donc on n'est pas une agence, par exemple. Les gens prennent souvent qu'on est comme une agence, qu'on va produire quelque chose pour un stunt marketing ou pour une saison ou pour une marque, mais c'est pas nécessairement notre core, c'est pas le genre d'entreprise qu'on est. Donc c'est pour ça que c'est ce genre de choses-là on développe pas sur ce volet-là. Mais on n'est pas contre d'avoir certaines opportunités à long terme sur du contenu tiers qu'on peut imaginer de réutiliser notre expertise, réutiliser ce qu'on a appris, qu'on a développé avec les années, parce que c'est beaucoup d'années de développement pour peaufiner la technique à faire ce qu'on fait.
Puis bon, on le dit, ça fait plusieurs années maintenant que vous avez lancé l'application. Je serais curieux maintenant, en 2020, 2021, 2022, comment qu'on fait pour aller chercher plus de clientèle? Parce que là, vous devez avoir pris une bonne partie du marché. Est-ce que vous avez vécu un petit peu de saturation?
Effectivement, saturation, compétition, tout ce qui est aussi, on devient beaucoup plus dépendant des grandes GAFA de ce monde, puis la manière qui managent leur campagne payante. Là, je sais pas si tu as suivi un peu le dossier des attributions là avec la dernière version d'iOS. Là, c'est un peu, on a un peu subi ça nous aussi cette année. C'est toute l'industrie qui est à s'adapter pour ça. Fait que oui, ça demande une stratégie 360 de ce qu'on fait, que ça soit des programmes d'ambassadeurs qu'on met en place, à savoir qu'on embauche des ambassadeurs numériques qui, eux, s'embauchent, ils ont le devoir de s'embaucher des groupes d'influenceurs. Et là, c'est par pays et par zone qu'on va les recruter. Donc, ça, c'est un volet qu'on fait. Un élément aussi intéressant aussi qu'il faut mentionner, c'est qu'on est... On a mis ça en place là, dès 2010. C'est un partenariat avec les hôpitaux pour enfants, de différents hôpitaux pour enfants à travers le monde. On en a près de 50 hôpitaux pour enfants à travers le monde dans lesquels on reverse un certain pourcentage de nos revenus qui sont faits en ligne. On en a en Italie, en Espagne, en Irlande, au UK, en Australie, au Canada, aux États-Unis. Montréal ici, c'est avec Sainte-Justine qui est notre partenaire. Puis on est rendu à, on s'approche bientôt du 750 000 qu'on a reversé en redevance auprès de tous ces hôpitaux-là pour enfants avec les années. Fait que ça, c'est quelque chose qui est important pour nous, qui tombe dans l'ambiance de Noël, puis qu'on devait le faire. Mais on s'en sert aussi pour faire aussi partie de notre stratégie marketing. Donc, on leur demande aussi de nous repartager ces hôpitaux-là à travers leurs employés, à travers leur liste de médias numériques ou leur Twitter ou leur Facebook ou ainsi de suite. Donc, ça fait aussi partie de ça. C'est certain, pardon, que la stratégie email est énorme là, chez nous. Donc, c'est un gros, gros dossier. Donc, tous les millions de emails qu'on envoie dans un délai très, très court, des usagers des années passées qu'on relance et ainsi de suite. Donc, ça, c'est énorme. Tout ce qui est les campagnes payantes, on achète sur toutes les plateformes là, que vous connaissez, en 4 langues, anglais, français, italien, espagnol. Donc, juste gérer ces campagnes-là dans un court délai, c'est quelque chose. Donc, oui, c'est sur plusieurs volets et c'est sur plusieurs territoires. Donc, c'est assez intense chez nous au niveau du marketing, mais tu as un exemple concret là, d'une marque consommateur en ligne, multi-pays, multi-territoire, dans lequel il faut que tu fasses une stratégie pour rejoindre le maximum d'usagers. On a aussi des agences de relations publiques qu'on fait affaire avec dans certains pays. À chaque année, on tourne un peu nos agences avec lesquelles on fait affaire pour dynamiser ce volet-là. Mais c'est un volet parmi tant d'autres.
Puis ça ressemble à quoi le futur pour Noël 2022, pour Noël 2023? Quelles sont les idées que vous êtes en train de peut-être réfléchir, discuter dans des réunions à l'interne?
Ben écoute, on a la partie nouveau territoire, on a encore de la place sur les territoires, là, je pense que c'est une de tes questions, pour faire de la croissance. Après ça, c'est comment rejoindre ces usagers-là dans la tactique la plus efficace possible. Puis c'est un travail de constant, puis d'ajustement, puis la recette que tu as faite une année n'est pas nécessairement bonne l'année suivante. Entre autres du fait là, qu'on est saisonnier, on peut avoir du succès sur une saison. Après ça, on arrive un an plus tard, le marché il a évolué. Les trucs ont changé. Donc, faut être prêt, faut anticiper un peu où le marché s'en va parce qu'on est beaucoup moins actif pendant la période hors saison au niveau du marketing. Mais tout ce qui est nouveau territoire, donc les pays émergents, on parle Chine, Inde et même Brésil, parce que le Brésil, c'est le territoire qu'on n'a pas. Donc ça, c'est un des axes d'opportunité pour nous là, de développer sur des nouveaux territoires avec la thématique qu'on a aujourd'hui. Mais je te dirais qu'on est vraiment, à ce moment-ci, ça fait déjà plusieurs mois qu'on est vraiment en grosse réflexion, grosse refonte au niveau du plan d'affaires, puis on a identifié plusieurs opportunités. Je pense que ça serait une belle occasion de qu'on se reparle dans 6 mois, à peu près 6 mois, un an peut-être après de se reparler pour voir où est-ce qu'on se dirige, parce qu'on est vraiment en train de travailler fort sur ça, puis on a différentes opportunités sur la table. On est vraiment au milieu de tout ça là, actuellement. Là. Mais bon, les nouveaux territoires, ça c'est un des axes qui est peut-être plus naturel pour nous.
Bon, ben, ça sera une discussion future avec un immense plaisir. Et Alexandre, j'aimerais terminer sur des questions un petit peu plus personnelles. Je suis toujours curieux de savoir ce que mes invités vont lire pour peut-être avoir des meilleures idées au niveau de leur plan d'affaires, leurs idées de croissance avec leur organisation. Es-tu un amateur de lecture? Est-ce que tu lis quelques lectures d'affaires?
Exact. J'ai mes moments, des fois plus que d'autres, mais effectivement, c'est sûr que j'ai tout lu là, les Steve Jobs et les Elon Musk de ce monde. Le dernier que j'ai lu, je l'ai fini je l'ai fini dans le temps de Noël, des vacances de Noël, parce que moi, les vacances de Noël, ça commence le 26 décembre.
J'imagine.
Il me restait à finir Unbound avec Jeff Bezos, là, qui était
incroyable.
J'ai trouvé ça assez intéressant. J'ai des choses que je remarque là, dans le fond des situations d'affaires ou des. Ça reste des produits aussi en ligne en quelque part, là, mais dans une échelle complètement différente. Sinon, j'ai lu. Ça, je suis moins axé là, sur du roman ou ainsi de suite. Je suis très. Ma femme trouve que je lis trop de. Quand je lis, je trouve des trucs de business. Mais j'ai lu dernièrement L'oiseau bleu d'Ezroum, qui est sur le génocide arménien. Okay. Super touchant comme histoire. J'ai pas de lien personnellement avec l'Arménie. Mais écoute, ma femme m'a fait lire ça, puis j'ai trouvé ça super bon. C'est assez intéressant. Ça m'a fait changement de mes lectures. Mes lectures business.
Ah, exact. C'est deux dynamiques complètement différentes. Hein. Quand on lit un livre d'affaires, on a plein d'idées par la suite, on va aller travailler. Quand on lit peut-être un roman sur une histoire spécifique, bon, peut-être que là, ça peut nous aider à penser à autre chose. Donc, c'est souvent deux dynamiques très différentes. Qu'en est-il peut-être de podcast? Est-ce que tu en écoutes un peu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui joue dans tes écouteurs quand tu travailles ou dans ta voiture?
C'est par séquence, c'est drôle parce que j'ai pas de longévité que des podcasts. Puis j'ai l'impression que c'est surtout ben, l'été, l'automne, mais moi je suis un grand amateur de moto, donc j'ai mon bureau, moi, en moto tous les jours. Donc le fait que j'ai mon casque sur la tête, donc je peux pas écouter beaucoup de choses. À l'hiver, là oui, je prends la voiture, mais j'ai moins le réflexe. Mais sinon, j'écoute, j'ai quand même écouté par séquence, là, bien connu, là, Carrie Fisher avec son Recode, Decode, là, le nom de son podcast. Fait que ça, j'ai quand même écouté ça, je l'écoute ici et là. Puis sinon, je suis un peu et j'écoute aussi Gary Vee, donc qui est, tu dois connaître.
Le sacré Gary Vaynerchuk.
Le sacré Gary Vee, ouais. Fait que ça, je l'écoute quand même. Des fois, un petit peu. Bon, écoute, il y a son style à lui, mais il y a quand même des éléments parfois qui sont intéressants.
Ah, il a compris comment faire du marketing de contenu. Donc, lui, que t'aimes ou que t'aimes pas, il est partout, tout le temps. Il y a beaucoup de choses à apprendre de ce que Gary Vaynerchuk fait dans ses stratégies. C'est ce que j'aime beaucoup, moi, de lui. C'est pas tellement le message, mais c'est le déploiement, l'exécution de la stratégie en ligne qui, je trouve, totalement fantastique et fascinante.
Tu ressens toute l'intensité américaine, là. Là, tu vois, ça, c'est ça. C'est un peu là. Ils rentrent dedans et let's go. Ils vont, puis c'est H24, comme dirait ma fille.
Okay. Exactement, ça arrête jamais. Puis, bon, tu as parlé un petit peu d'aller au travail en moto. À quoi ressemble ta routine avant, pendant et après le travail?
Ben écoute, la saison ici, routine presque au pratique. Je suis papa de 3 enfants, donc c'est quand même relativement aussi occupé. J'ai mes petits lutins aussi à la maison à m'occuper, avec ma femme, bien entendu. Mais là, je reconduis mes filles à l'école. C'est moi qui suis sur la logistique de reconduire les filles à l'école le matin de ce temps-ci. Un truc que j'ai tenté, que j'ai commencé à intégrer un petit peu vers la fin de l'année, qui m'a beaucoup aidé, qui peut peut-être aider d'autres entrepreneurs, ce qu'ils appellent le box breeding. Donc, tu peux le voir beaucoup de vidéos sur YouTube là-dessus. Là. C'est juste un petit exercice de respiration pour un peu se calmer. Se connecter, qui dure 2-3 minutes là, que tu peux faire durant ta journée. Donc ça, c'est quelque chose que j'essaie d'intégrer durant ma journée, que j'invite à ton auditoire et à toi-même, si tu veux, de découvrir ça. Regarde ça, box breathing. Dans le fond, tu prends une inspiration, une expiration, puis tu retiens quelques secondes entre chacune pendant quelques minutes. Puis c'est vraiment ça te reground, comme on dit, un peu, refocus, puis prêt à rattaquer ta journée. Donc parfois, on oublie ça. Puis on est dans le go, une chose après l'autre. Ouais. Faut trouver des petits moments. Donc, c'est juste de trouver ce petit moment-là. C'est la discipline de l'avoir. C'est pas toujours évident quand l'agenda est plein. Mais c'est bien ce qu'il faut idéalement faire.
Intéressant. Ben, Alexandre Bérard, si on veut en apprendre plus, est-ce que, bon, bien entendu, on va aller télécharger l'application. Peut-être vous avez des postes ouverts ici. Qu'est-ce que notre audience aujourd'hui pourrait te donner un petit coup de main?
Ah ben écoute, bon point, merci de proposer ça. C'est sûr que développeur back-end, tout ce qui est développeur ressources, on a un congé de maternité, tiens, justement, je parlais de marketing tantôt. Si quelqu'un veut se taper un dossier assez unique ici à Montréal, très international, en plusieurs langues, sur plusieurs territoires, sur plusieurs volets du marketing numérique jusqu'au plus traditionnel. Donc, notre directrice marketing est enceinte et on est en congé de maternité. Il faut avoir quelqu'un qui va la remplacer, puis éventuellement, on peut aussi garder cette personne-là en poste aussi, considérant que ça tout le monde est heureux. Donc, développeur back-end aussi, on cherche. Développeur mobile, on n'est jamais contre non plus. C'est toujours bon. Gestion de projet, gestion de produits, ça, c'est tous des trucs qui est aussi super, je pense, intéressant, où les gens qui s'intéressent à tout ce qui est en ligne, plutôt consommateur, ça, c'est un produit qui rivalise avec d'autres produits de grande envergure. Là, ça peut arriver, ça nous arrive sur certains territoires où il faut se dire là, qu'on est côte à côte avec téléchargement à côté de TikTok, Disney+, nommez-les, Facebook, Instagram, là, dans les téléchargements de la journée, on s'entend. On fait pas ça sur l'année, mais on peut arriver qu'on rejoint ces apps-là ou qu'on les dépasse sur certaines journées de l'année, bien entendu, autour de très, très proche de Noël. Là. On vient à bout d'avoir des stats où on se frotte à des marques immenses. Puis c'est un petit bureau studio de Montréal là, qui gère ce produit-là.
Wow, félicitations. Ben Alexandre Bérard, merci beaucoup d'avoir pris le temps avec nous aujourd'hui. Une histoire assez fantastique, atypique, celle de mon Père Noël portable. J'espère que les gens qui ne connaissaient pas l'application et qui écoutent le podcast aujourd'hui vont aller la télécharger. Donc, je te remercie Alexandre. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. Après 138 épisodes de podcast, on ne s'arrête pas. Même qu'on veut considérablement améliorer la qualité du podcast dans les prochaines semaines. Donc, si vous avez des commentaires à nous faire sur l'amélioration, on vous invite à venir nous en parler. Et d'ailleurs, je vous invite à m'ajouter sur LinkedIn. Comme je vous le dis à chaque semaine, j'adore discuter avec vous. Et plus souvent qu'autrement, vous me donnez de super idées d'invités pour le podcast. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.